La petite reine va-t-elle finir par imposer son diktat ? Dans quelques semaines, le gouvernement doit présenter un plan vélo dans le cadre de la loi d'orientation sur les mobilités qui sera discutée à l'automne. Un plan comportant des mesures qui devraient favoriser l'utilisation du deux-roues en France. Il est vrai que notre pays, dans ce domaine, se traîne en queue de peloton en Europe, alors que les trois quarts d'entre nous résidons à moins de 5 km de notre lieu de travail. Le vélo ne sert seulement que pour 3% des déplacements des Français. Le gouvernement aimerait tripler cette proportion. Pourtant, depuis plus de 20 ans, en raison de la congestion des centres-villes et pour des raisons environnementales, les agglomérations multiplient les aménagements pour cyclistes. Les espaces cyclables représentaient au dernier relevé environ 20% de la voirie des villes de plus de 100 000 habitants et de nombreuses communes se sont converties au vélo en libre-service. Ces initiatives se font généralement au détriment de la voiture, qui voit son espace dédié se réduire dans les centres et les hypercentres des grandes villes. Alors après des décennies durant lesquelles la voiture était un symbole de modernité et de liberté, c'est au vélo que ce statut est dévolu et l'automobiliste revêt de plus en plus le rôle du conducteur égoïste, pollueur et dangereux pour les autres. La bicyclette est-elle en train de prendre le pouvoir ? Les politiques des villes lui accordent a-t-elle trop de place ou pas assez ? Partager l'espace entre moyens de transport doit-il se faire au détriment de certains véhicules plutôt que d'autres ? C'est ce dont nous allons discuter durant cette heure.
Le débat de midi. Didier Siamour sur France Inter.
Et pour en débattre sont aujourd'hui présents Isabelle Le Sens. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes élue locale du 15e arrondissement, sans étiquette, mais au sein de la majorité Les Républicains, avec le maire du 15e arrondissement étant Philippe Goujon. Et vous êtes également consultante en mobilité.
Exact.
Avec nous également Olivier Schneider, bonjour.
Bonjour.
Vous présidez la Fédération française des usagers de la bicyclette, c'est ça ?
Tout à fait.
Et puis enfin, en duplex, depuis Périgueux, bonjour Mathieu Flonneau.
Bonjour Didier Siamour.
Donc vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes spécialiste d'histoire urbaine et de l'histoire des mobilités. Et vous êtes co-auteur avec Jean-Pierre Orfeuille de Vive la route, vive la République, paru en 2016 aux éditions de l'Aube. Alors madame, messieurs, une première question pour commencer. Comment êtes-vous venu à l'émission ?
Je dirais que ça n'a aucune importance de le savoir. Parce qu'en fait, en plus j'habite tout près de la maison de la radio. Eh bien figurez-vous, j'aurais dû venir à pied et je suis venue à vélo parce que le vélo me détend un peu plus pour être bien à votre émission. Donc je suis venue à vélo, mais vraiment, ça n'a... on peut être un très bon avocat du vélo et un très bon technicien du vélo et autres sans être cycliste, à condition naturellement d'être écouté, d'être à l'écoute, pardon, et d'avoir une équipe qui sait et de savoir s'entourer.
Et Isabelle, et le sens, c'est été... votre principal moyen de locomotion, le vélo aujourd'hui ?
C'est mon préférentiel, on va dire, et dans la pratique, c'est le principal, mais si je devais me déplacer beaucoup et loin, je cumulerais, je combinerais, etc.
Olivier Schneider, vous, de votre côté ?
Alors moi, je suis venu de Brest grâce à la combinaison vélo pliant plus TGV.
D'accord.
Et donc, le vélo est mon moyen de transport dans toutes les villes de France quand je peux y aller en train.
C'est-à-dire que partout où vous allez, vous emmenez votre vélo avec vous.
Voilà, il y a même des gens qui me reconnaissent plus à mon vélo que... qu'à mon visage, si je puis dire. Mais,
pourquoi est-ce qu'il a une originalité, ce vélo ?
Il est un peu décoré avec des éléments personnalisés, un peu en cuir. Mais ça montre aussi un problème en France sur le stationnement dans les gares. Si, je ne peux pas stationner de manière sécurisée un grand vélo, donc j'emmène avec moi un vélo pliant. Par contre, l'avantage, c'est qu'à destination, je peux aussi reprendre et bénéficier du vélo.
Alors Mathieu Flonneau, vous êtes donc à France Bleu Périgord, à Périgueux. Merci d'ailleurs à l'équipe de France Bleu qui vous accueille. Comment vous êtes-vous rendu dans notre studio ?
Alors là, présentement, pour faire la petite vingtaine de kilomètres et être à l'heure, il m'a fallu prendre l'automobile. Mais si d'aventure j'avais été à Paris, comme je le fais toujours, quand c'est possible, c'est-à-dire que j'étais un grand adepte du service Vélib, et puis la catastrophe étant arrivée, il m'est arrivé de reprendre beaucoup, beaucoup le métro, ce que j'ai regretté, parce que j'adore le vélo, j'adorais le Vélib, et c'est un des éléments du débat, probablement.
Bicycle. Bicycle, bicycle.
I want to ride my
bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my bicycle.
say white,
say bye,
I say bite,
say shark,
I say him and George was never my scene, and I don't like Star Wars.
Say Rose,
I say Roy,
say God,
give me a choice.
Say Lord,
I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
All I wanna do is bye.
I want to ride my
bicycle. Races are coming your way.
So forget all your duties, oh yeah.
Rock bottom girls, they'll be riding today.
So look out for those beauties, oh yeah.
On your marks, get set, go!
Il ne pouvait y avoir de titre plus adéquat, hein, Bicycle par Queen, une chanson sortie il y a exactement 40 ans, dont le chanteur Freddie Mercury avait eu l'idée en voyant passer le Tour de France.
Notre stratégie de mobilité comprendra un plan vélo pour aborder l'ensemble des dimensions de ce sujet, santé publique, infrastructure, éducation, fiscalité.
Et une fois que tu as enfin ton Vélib, tu peux utiliser cette magnifique invention de l'homme moderne. La piste cyclable qui, je le rappelle, est utilisée par deux types de personnes. D'abord, les cyclistes et les gens qui marchent dessus et qui te font chier parce que tu rentres dedans.
C'est une piste cyclable qui prend quand même beaucoup de place sur la chaussée, donc c'est sûr que ça réduit la circulation. Mais moi, en tant que cycliste, c'est vrai que c'est vachement chouette de pouvoir passer le long de la Seine à Paris.
C'est plutôt agréable. On fait du sport, on bronze, c'est bien. Puis comme ça, en plus, on dépasse les voitures. Donc ça fait super plaisir en plus. Ah non, plus de voiture, ça sert à rien, voiture à Paris, c'est mort. C'est hyper 20e siècle, la voiture, c'est fini.
Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis.
Moi, personnellement, je utilise les voitures, c'est pas les vélos, mais je pense que c'est pas mal, c'est pas mal.
Ça va être de plus en plus difficile, effectivement, oui.
On impose les gens à faire du vélo. C'est pas la culture française, c'est hollandaise.
Qu'est-ce que je vais devenir, moi?
Eh ben, un piéton, le plus
vrai. Ah,
vous l'avez compris, hein, nous parlons de vélo aujourd'hui en se demandant quelle place lui accorder dans la cité. Je le disais en introduction, on attend d'ici la mi-septembre la présentation d'un plan vélo par les ministres Elisabeth Borne et Nicolas Hulot. Alors première question à mes participants à ce débat, qu'est-ce que vous attendez de ce plan vélo dans un pays, comme on l'a entendu dans l'extrait, qui n'est pas forcément avec une culture cycliste très développée? Isabelle Lesens.
Pas une question forcément de culture ou quoi, c'est une question d'histoire, par contre, d'histoire d'un pays ou des villes, ça c'est sûr. Écoutez, sincèrement, au point où on en est, et je vais pas être gentille avec mon voisin de table, mais moi je n'en attends vraiment plus rien du tout. Je pense, moi, personnellement, que c'est fichu. Et
pourquoi,
que tant pis.
Pourquoi vous dites ça?
Parce que ce qui en a été vaguement annoncé à la fameuse dernière conférence de presse du début juillet...
Fin juin.
C'était déjà, moi j'ai appelé ça un peu de l'eau de rose, enfin n'importe. des plus de pistes cyclables, je sais pas quoi, enfin des mesures d'accompagnement qui ne provoquent pas de rupture dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on continue sur la même lancée. Alors évidemment, c'est, bien sûr, pourquoi pas, mais c'est pas ça qui va nous permettre d'atteindre les 20% ou les 25% de part modale qui est attendue du vélo.
Bah, aujourd'hui, les ambitions sont déjà plus modestes, puisque aujourd'hui, je le disais en introduction, ça représente 3% aujourd'hui des déplacements, l'utilisation du vélo, et l'idée, c'est de le tripler. L'objectif du gouvernement, oui, c'est de le tripler, donc de passer à 9-10%.
Et ça fait 20 ans qu'on dit qu'on va atteindre 10-12%, etc. Et puis, bon, ça se fera, mais ça se fera, de toute façon. Ça se fera.
Olivier Schneider, vous avez des attentes particulières par rapport à ce plan vélo qui est annoncé ?
Alors nous, ça fait 2 ans qu'on est en campagne. C'est une campagne qu'on a appelée Parlons Vélo, où on a parlé vélo avec tous les candidats aux élections présidentielles, puis aux élections législatives. Ensuite, on a pris part active aux assises de la mobilité. L'extrait de discours que vous avez passé d'Elisabeth Borne, c'était le 13 décembre à la clôture de ces assises. Et c'est vrai qu'on a des attentes très concrètes, enfin des propositions, hein, c'est pas des attentes. Et ces propositions, c'est d'accompagner les collectivités pour créer des vrais réseaux de pistes cyclables, parce qu'il y a de plus en plus de pistes cyclables en France, mais elles ne créent pas de réseau cohérent. C'est de lutter contre le vol, c'est de systématiser l'apprentissage de la mobilité vélo à l'école, c'est des mesures fiscales comme l'indemnité kilométrique vélo. Donc on a toute une liste d'attentes et on sait que la ministre...
Elles ont été prises en compte ou pas ?
Alors, le problème, c'est pas est-ce qu'elles sont comprises ou pas au niveau du ministère
de
la transition écologique et solidaire, c'est est-ce que ensuite l'arbitrage pris par Bercy ou le Premier ministre sur le financement de ces mesures, est-ce qu'il sera favorable ou pas, parce que une politique publique, s'il n'y a pas l'argent qu'il faut avec, on peut avoir toutes les belles paroles, dire faites tous du vélo parce que c'est bon pour l'activité physique, pour le gaz à effet de serre, etc. S'il n'y a pas les financements de ces politiques, notamment nous ce qu'on propose, c'est un fonds vélo de 200 millions d'euros par an qui permettent de lancer des appels à projets pour aider les collectivités. S'il y a beaucoup moins ou rien du tout, en effet, ça va un peu accoucher d'une souris, quoi.
Mathieu Flonneau, de votre côté, qu'est-ce que vous pensez de cette annonce de plan vélo pour la mi-septembre ? Est-ce que vous en avez des attentes particulières ? Est-ce que vous êtes optimiste sur l'utilisation, le développement d'utilisation du vélo ou peut-être pas grand-chose ?
Non, il est certain qu'il y a une pédagogie qui est absolument nécessaire, qui est entreprise, ça vient d'être rappelé par Isabelle Le Sens depuis plus d'une vingtaine d'années, mais que cette pédagogie débouche pour l'instant quand même sur un échec très large du report modal. Ce que l'on constate, c'est qu'il est, et c'est le grand écart que votre mise en contexte, qui était d'ailleurs très pertinente, parce que on est devant des anecdotes, on est devant Louis de Funès qui fait marcher Bourville finalement, et puis on est devant ce mur écologique, cette transition mobilitaire, cet enjeu que la loi d'orientation sur les mobilités, qui a tout de même été plusieurs fois déjà repoussée, on l'attendait normalement pour le début de l'hiver et on est à la fin de l'été, elle n'est toujours pas là. Il y a des tensions qui sont très larges autour de la question de ce bouquet de mobilité absolument nécessaire, dans lequel le vélo joue un rôle. Mais il ne faut pas non plus en attendre une solution de type panacée, parce que, évidemment, les contraintes sont importantes, évidemment aussi, et c'est toute la culture vélo, et on comprend bien que des militants souhaitent l'élargir très largement, mais c'est une culture qui a aussi des limites, c'est une culture qui mérite une évaluation, et donc dans le bouquet mobilitaire, il y a des zones de pertinence, il y a des zones d'impertinence, on ne dépassera pas nécessairement, et c'est pas simplement une inertie historique, on ne dépassera pas nécessairement bien des pourcentages qui sont difficilement gagnables par des grandes villes vélo. Je pense à Strasbourg, qui est la plus grande ville vélo en France, et qui n'est toujours pas quand même à 15% des déplacements. Il y a des tensions, des inerties, des chemins de dépendance, pour le dire de façon pédante, qui font qu'il y a des limites à cette culture vélo. Mais en revanche, évidemment, le discours doit être un discours motivant, encourageant, une évidence.
Isabelle Le Sens, comment expliquer ce que vient de rappeler Mathieu Flonneau ? Depuis 20 ans, plus de 20 ans, il y a eu pas mal de mesures qui ont été prises, quand même incitatives. Comment expliquer, et je vous posais la question tout à l'heure, est-ce que c'est un problème de culture ? Comment expliquer qu'aussi peu de Français aient recours au vélo comme pour des déplacements, on va dire, utilitaires et pas forcément de loisirs.
Oui, les loisirs, il y a des liens, mais ce n'est pas tout à fait le même sujet quand même. Je n'ai pas dit tout à fait qu'il y avait eu des mesures de prise, même s'il y en a eu.
C'est moi qui le dis.
D'accord, ça va. Non, il y a eu des rapports tout à fait motivants. Il y a eu le rapport Le Breton en 2004 déjà. C'était une merveille. Elle avait tout compris, cette personne, Madame Le Breton. Il y a eu le rapport Goujon, c'est mon maire naturellement, mais c'est bien vrai, remis en janvier 2012. Tout le monde était vraiment très très content, etc. Et puis à chaque fois, hop, paf, changement de gouvernement et tout s'arrête et on n'en parle plus. Et puis voilà, quoi. Et on repart à zéro à chaque fois. Bon. Donc il y a un peu de ça. Maintenant, pour ce qui est d'aujourd'hui, peut-être, pourquoi tout a été reporté. Alors bien sûr, il y a eu la grève de la SNCF, je sais bien, etc.
Non, mais ça, c'est un problème. Mais bon. Moi, ce que je vous pose la question, c'est pourquoi aujourd'hui, il y a aussi peu de pratiquants du vélo au quotidien.
Oui, alors, c'est parce que, à mon avis, c'est parce que le vélo n'est toujours pas considéré comme un mode de déplacement réel, sérieux, c'est ça, quoi, au fond. C'est au mieux considéré comme une décoration, comme un mot obligé dans les politiques. Ça, c'est les écologistes, quand même, qui l'ont imposé, en quelque sorte. Sur Paris, c'était avec le premier mandat de M. Delanoë, en 2001. Donc, on sait qu'on ne peut plus oublier le vélo. C'est déjà un progrès, parce qu'il y a eu une époque où le vélo avait même disparu complètement du discours. Mais on ne sait toujours pas à quoi il sert, au fond. Et on ne se pose pas les questions. Et puis d'autre part, quand même, chaque fois qu'on lance un programme, un plan vélo, un plan ceci, cela, on ne se fixe aucun objectif et donc on ne mesure rien et donc on ne rectifie pas le tir et donc on fait les choses sans objectif, en quelque sorte.
Olivier,
on le fait parce qu'on croit que c'est utile de le faire, mais on ne sait pas pourquoi.
L'utilisation du vélo, ça se décrète à travers un plan ?
Non. Par contre, quand il y a des volontés... il faut encourager le passage à l'acte.
Mais c'est quoi les volontés ?
Je vais vous donner deux chiffres. Il y avait un sondage très récent, juin 2018, qui demande, dans le cadre de la loi mobilité, souhaitez-vous qu'il y ait plus de places, êtes-vous favorable ou défavorable à ce qu'il y ait plus de places dédiées au vélo ? 83% des Françaises et des Français disent qu'ils sont pour. Et quand on regarde par genre, par âge, par sympathie politique, c'est à peu près constant, ce qui est assez rare. Par contre, la question, c'est du coup, pourquoi est-ce que 80% des gens sont pour qu'on fasse plus pour le vélo et que 3% des déplacements qui se passent à vélo ? La FUB a fait l'année dernière, pendant les assises de la mobilité,
la FUB,
une grande
je le
enquête.
Rappelle, c'est la Fédération des utilisateurs de bicyclettes.
Des usagers de la bicyclette, donc qui fédère 300 associations dans toute la France, a fait une grande enquête, Parlons Vélo. On a eu la contribution de plus de 100 000 personnes, donc bien au-delà des militants. D'ailleurs, c'était la contribution citoyenne la plus importante aux assises de la mobilité. Et le constat est simple, 85% des répondantes et des répondants nous disent qu'aujourd'hui c'est trop dangereux de faire du vélo, 90% nous disent que c'est trop dangereux pour les personnes âgées et pour les enfants, sachant que ce sont les deux groupes de population qui auraient le plus besoin, notamment par rapport à leur manque d'activité physique, de faire du vélo. Donc c'est quand même, pour passer à l'acte, pour passer de ces 80% de gens favorables à un peu plus que 3% de gens qui se déplacent à vélo, alors que vous l'avez dit en introduction, les trois quarts d'entre nous pourraient faire les moins de 5 km en 20 minutes à vélo. C'est tout simplement une question à la fois d'infrastructure, et infrastructure ça veut dire autant circulation que stationnement, parce que si on a des pistes cyclables mais qu'on se fait voler le vélo après, ça ne fonctionne pas. Et il y a aussi, c'est important, l'éducation à la fois des cyclistes dès le plus jeune âge et du coup à travers cela de leurs parents, mais aussi des automobilistes, parce que quand il n'y a pas de piste cyclable, on peut circuler dans la circulation générale, c'est là que le code de la route le prévoit, mais quand on se fait doubler avec des toutes petites distances, qu'on se fait presque frotter dessus, ça fait peur. Heureusement, c'est pas très dangereux, il n'y a pas tant de tués à vélo que ça, il y a un tué à vélo tous les 50-60 millions de kilomètres parcourus à vélo, donc il y a de quoi voir venir. Par contre, c'est inconfortable, et donc aujourd'hui, les parents n'imaginent pas laisser leurs enfants aller à l'école ou au collège à vélo, et c'est un énorme problème de santé publique. parce que bah, les jeunes aujourd'hui ont 10-15 minutes d'activité physique par jour au lieu des 60 que préconise l'Organisation mondiale de la santé. Et donc l'envie est là, que vous demandiez aux enfants, à leurs parents, à leurs grands-parents. Il faut juste travailler sur les comportements et sur les infrastructures.
Alors, pas mal de réactions d'auditeurs hein, sur Twitter ou sur, par le mail en accédant via la page franceinter.fr, nous disant qu'il y avait en effet un manque d'infrastructures et notamment pour stationner et attacher les vélos. C'est un constat qui revenait assez souvent. Et puis, un autre constat quand même, c'est que beaucoup d'auditeurs dénoncent les incivilités des cyclistes dans la ville en disant que bah, il y a quand même un vrai problème de comportement et qu'ils devraient être verbalisés autant que les automobilistes. Mathieu Flonneau, je voulais vous faire réagir. Tout à l'heure, Isabelle Le Sens disait que c'était la sous-utilisation du vélo, c'était quand même un problème, enfin je dirais que c'était le fruit d'une histoire. Vous qui êtes historien des mobilités, comment vous analysez cela? Est-ce que le développement de la ville s'est pas trop axé pendant très longtemps uniquement sur la voiture et pas sur le deux roues?
Alors, j'entends tout à fait évidemment cet argument. Il faut comprendre que l'automobile n'a pas non plus été une intruse dans la ville. C'est-à-dire qu'il y a une co-construction de l'espace urbain, de ses facilités, des aménités urbaines que permettait une plus longue distance de déplacement grâce aux véhicules motorisés, et pas que des automobiles, hein, des autocars, des véhicules utilitaires, et donc une transformation des modes de vie qui a laissé de côté, effectivement, le vélo pour des trajets domicile-travail qui étaient très largement majoritaires pour les usagers des villes. Mais alors, ce qui parasite aujourd'hui le débat, cela a été dit tout à l'heure, et il ne faut pas le reléguer totalement au chapitre simplement de la marginalité, c'est que beaucoup de ces centres-villes, désormais, et naturellement nous le connaissons bien à Paris, beaucoup de ces centres-villes ont changé d'affectation, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'emprise pour un travail et des mobilités domicile-travail, mais que ces mobilités ont changé de statut, qu'il y a de plus en plus de mobilités touristiques, et là, que le vélo réclame une place légitime dans l'hypercentre. Pourquoi pas ? Mais simplement, cela ne vaut que pour l'hypercentre. Et il faut raisonner, aujourd'hui, avec une ville qui est très largement étalée, une ville qui est celle du Grand Paris, pour Paris, mais qui est celle des grandes agglomérations de provinces, qui ont des communautés de communes qui doivent gérer des politiques, qui prennent en compte des déplacements qui peuvent être considérablement allongés. Et là, évidemment, par effet inverse, le vélo perd la légitimité qu'il peut gagner ailleurs. Et c'est cette compensation-là qui est délicate à trouver. Et je dirais que là où il y a le plus besoin de pistes cyclables, ce n'est évidemment plus dans les centres-villes. C'est plutôt dans les proches périphéries, voire un peu plus lointaines, créées comme ce que les Hollandais ont créé il y a déjà une cinquantaine d'années, c'est-à-dire quasiment des autoroutes à cyclistes dédiées, mais qui n'étaient pas conçues comme étant, alors là je vais employer un mot peut-être un peu polémique, mais sur le mode revanchard de la conquête sur l'automobiliste. Car il ne faut pas essentialiser les comportements. Et le débat n'a rien à gagner, eh bien, à reléguer les uns contre les autres et à nier effectivement ce qui est aujourd'hui fondamental, c'est-à-dire l'intermodalité. On est tantôt cycliste, on est tantôt usager des transports publics, éventuellement des véhicules individuels, et le débat doit être nourri de cette culture plurielle des mobilités.
Alors, vous avez suscité pas mal de réactions, en tout cas dans le studio. On va revenir dessus. En attendant, on peut écrire Junior avec un E, c'est quand il s'agit du trio féminin, avec son titre Magnifique.
Magnifique. Magnifique. Caractère excentrique. te fait envie, ça te fait rêver. Tout ce qui échappe à ta logique, les faux départs, les ratés, le flou artistique. Tu te fais volontiers avoir par ta posture ironique. Toi-même tu sais y'a un hic. Tant que tu t'appliques à l'erreur, ça n'a pas de prime de valeur. C'est tellement chic d'être un loser.
C'était magnifique, ce n'est pas une appréciation, hein. C'est le titre de la chanson interprétée par Junior, un titre choisi par Elsa Béranger qui est en charge de la programmation musicale de l'émission. Celle-ci est réalisée par Stéphane Ronxin, assisté de Florent Beauvallet et Stéphane Boja, et elle a été préparée par Nathan Gallo et Aurore Mansip.
Le débat de midi. Didier Siamour sur France Inter.
On revient à notre débat sur la place du vélo dans la ville. Et alors, si le vélo peut être une solution à certains maux, elle ne répond pas toujours aux problèmes d'acheminement en centre-ville et notamment des problèmes de livraison pour les commerçants. Nous avons Mathieu Guyon au téléphone. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes président de l'Association des commerçants et riverains du cœur de Paris.
Voilà.
Comment vous réagissez aujourd'hui au développement du vélo justement dans le centre-ville de Paris ?
Alors, non, il n'y a pas de souci pour le vélo en termes, et c'est normal, il faut protéger le vélo. Comme disaient vos intervenants, il ne faut pas avoir l'esprit revanchard, et nous, on n'est absolument pas, sauf qu'on a plutôt l'impression de se retrouver justement avec des gens qui n'ont qu'une envie, c'est de tuer la voiture et de se servir de prétexte du vélo pour arriver à leur fin. Et donc il n'y a pas d'idée de logique constructive comme il y a eu avec Monsieur Pompidou, et vous avez votre intervenant Mathieu Flounon qui a travaillé dessus, donc il comprend très bien ce que je veux dire. Et donc c'est terrible parce que vous n'avez pas cette logique. Et donc on est en train de créer 4 mètres de voie de large au niveau de la rue de Rivoli quand on aurait pu faire simplement 2 mètres. Et donc là on se retrouve avec des embouteillages complètement fous. Après avoir fermé les voies sur berge, on ne sait pas comment on va réaliser correctement les livraisons. On sait qu'on va devoir payer énormément de PV. Et donc c'est vrai que tout ça introduit des problématiques, et aussi donc le changement de nature du centre de Paris, où on va aller que vers des touristes, et on va perdre totalement si vous voulez nos bouchers, nos artisans.
D'accord. Mathieu Guillon. Olivier Schneider, président de la Fédération française des usagers de la bicyclette, quand vous entendez ça, vous avez l'impression qu'on veut tuer la voiture aujourd'hui ?
En tout cas, c'est pas l'intention de la FUB. Et dans l'étude dont je vous parlais, on a eu plus de 100 000 réponses. L'immense majorité, je me souviens plus, c'était 80 ou 85% des gens, avaient aussi le permis de conduire. Donc il y a en tout cas dans ma fédération absolument pas d'envie de tuer la voiture. Monsieur Flonneau en parlait tout à l'heure, il y a un mode pertinent pour chaque déplacement en fonction de l'heure, de la distance, du fait justement est-ce qu'on transporte des marchandises ou pas. Il faut juste rééquilibrer de manière raisonnable. Après, je n'ai pas d'avis à donner sur la rue Rivoli n'étant pas parisien, mais en effet, il faut aussi prendre en compte. Alors, beaucoup de villes, notamment en Europe du Nord, organisent les livraisons. C'est avant telle heure. C'est dans la journée, s'il y a besoin de réapprovisionnement, c'est fait avec justement soit des petites voitures électriques, soit des vélos cargo qui peuvent transporter jusqu'à 150, 200 kilos, etc. Enfin, ça s'organise pour que, en effet, il ne s'agit pas de tuer qui que ce soit ou quelque mode de transport que ce soit. Par contre, par exemple, ce qui m'a choqué dans le propos il y a un instant, c'est de sous-entendre que le vélo, c'est un mode de déplacement uniquement pour le tourisme ou pour le loisir, alors que quand vous regardez des villes comme Copenhague ou Amsterdam, il y a quelques touristes à vélo, d'ailleurs, qui ne savent pas trop où se mettre, etc., parce qu'ils ne sont pas habitués à s'insérer dans une circulation cycliste dense, ce qui n'est pas évident quand on n'est pas habitué. Non, c'est le vélo dans les villes denses, c'est le mode de transport qui a le meilleur rendement spatial. C'est-à-dire que quand vous avez un mètre linéaire de largeur d'espace, ce que vous allez avoir, la plus grosse concentration, ce seront les piétons, mais les piétons se déplacent à 4, 5, 6 km heure. Ensuite, vous avez le transport guidé, les tramways et le métro, mais ça, on ne peut pas en construire partout et ça coûte très cher. Ensuite, vous avez le vélo, le bus ou encore plus la voiture ont un moins bon rendement de l'espace. Après, en ville dense, l'espace est très, et surtout à Paris, qui est la ville la plus dense d'Europe, le centre-ville de Paris intramuros, l'espace du coup est très 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 il y a de la concurrence, il est très précieux, et donc en effet pour créer ce réseau continu mais qui va servir avant tout aux Parisiens et aux Franciliens pour se déplacer et à l'occasion aux touristes pour regarder Paris, il faut faire des choix. Alors après, sur le cas qui concerne la rue de Rivoli, j'ai pas d'avis particulier.
Isabelle Le Sens, vous êtes élue locale sur Paris dans le 15e arrondissement. Vous, est-ce que vous avez l'impression que le problème, en fait, c'est pas de présenter le vélo comme une alternative à la voiture? Est-ce que c'est pas ça biaise pas un peu
non,
le débat?
Non, en réalité, c'est plutôt une alternative aux transports en commun qui sont surbondés, comme chacun sait, et qui sont utilisés souvent pour des trajets extrêmement courts que les gens seraient parfaitement capables de faire à pied bien souvent ou à vélo. Et donc moi ce que je pense c'est qu'il faut, ça contredit absolument pas ce qui a été dit jusqu'à présent d'ailleurs, il faut que tout ce qui est possible d'être fait à vélo en termes de distance, alors c'est largement au-dessus de 5 km, hein, c'est 10 ou 15 km, puisse être fait dans des bonnes conditions raisonnablement à vélo. Et que une bonne partie des gens donc qui sont concernés par ces distances le fassent à vélo s'ils le souhaitent, mais que en tout cas cela soit réellement possible de le faire dans des bonnes conditions.
Donc, à partir de là, ça vide un peu les transports nécessaires. Ça veut dire faire les aménagements nécessaires.
Ça veut dire faire les aménagements nécessaires principalement, et à terme, ça veut dire aussi on ne peut jamais raisonner à ville égale, si je puis parler ainsi. C'est-à-dire que la ville des grandes distances dont parlait Monsieur Flonneau avec les banlieues lointaines, etc., c'est typiquement la ville qui a été créée par l'automobile, ça c'est pas moi qui le dis, c'est bien connu évidemment. Et la ville du vélo, c'est la ville compacte, effectivement, la ville dense. Il y a eu une étude il y a pas très longtemps qui a montré que les gens qui utilisaient le vélo personnel, pas le vélo en libre-service précisément d'ailleurs, mais le vélo personnel, très rapidement, ils adaptaient leur mode de vie au fait qu'ils étaient cyclistes. C'est-à-dire que quand ils avaient la chance de pouvoir acheter un logement, ils s'assuraient qu'il y avait un garage à vélo. Ils s'assuraient que c'était pas en haut d'une côte, mais plutôt à mi-côte ou plutôt en bas, etc. Ou que c'était pas trop loin du lieu de travail, surtout s'ils ont un travail permanent, enfin, etc. Et que c'est vraiment le vélo et la ville qui va avec, selon le slogan que la RATP avait adopté il y a pas mal d'années déjà.
Mathieu Flonneau, est-ce qu'il n'y a pas eu une tendance à opposer voiture et vélo?
Ceci est une évidence, mais malheureusement, je ne peux que regretter à nouveau que le débat soit parisianiste avec la seule rue de Rivoli. Ça a été très
bien. Ça a été juste un exemple cité parce qu'on a pris.
J'entends bien. Mais justement, C'est-à-dire que ça a été rééquilibré dans le propos, j'y suis très sensible. C'est pas à Paris que le problème se pose. Et là, je pense qu'il faut véritablement délocaliser totalement la question. À Paris se pose un problème, et là, je maintiendrai cet argument volontiers et je pourrais l'étayer, je l'ai écrit, cela a été rappelé. J'ai beaucoup travaillé sur la période Pompidou, qui est une période qui favorise tous les leviers en termes de mobilité. L'automobile, parmi d'autres, et la formule qui lui a été prêtée est une formule tronquée, c'est-à-dire adapter la ville à la seule automobile. Ce n'était pas du tout ce qu'il avait dit. Simplement, il faut considérer que actuellement, il y a le sentiment, qui a été très bien rappelé par le représentant des commerçants, le sentiment d'une forme de dépossession de la ville. Au nom, et là je pèse mes mots, d'une forme d'idéologie et de pensée un peu magique. Et ceci a été rappelé parce que à Paris, vous avez le cumul en plein centre, et vraiment, sortons très vite, mais j'attire juste l'attention là-dessus, vous avez le cumul en plein centre de politiques qui sont résolument anti-voiture. Et je comprends que avec beaucoup de prudence, la Fédération des usagers de la bicyclette regarde pas véritablement cette question-là. Mais lorsque vous avez fermé la voie express rive droite, et ceci a été rappelé en février dernier, sur la base de rapports qui présentaient des omissions, des inexactitudes et des insuffisances, c'est un jugement de tribunal qui a dit cela. C'est pas un jugement partisan. Eh bien, partant de là, vous avez une politique qui, à certains égards, et on peut le comprendre, mais il faut l'avouer, qui, à certains égards, eh bien, sélectionne les usagers, sélectionne les habitants. Alors, oublions vite Paris, parce que, véritablement, je crois que le surinvestissement parisianiste nuit au débat, et regardons plutôt là où des investissements, et sans doute à moindre coût, seraient plus pertinents.
Olivier Schneider, vous vouliez réagir par rapport à ce qui vient d'être dit, et est-ce que peut-être aussi en parlant en dehors de Paris?
Alors justement, pour parler en dehors de Paris, il y a deux raisons essentielles pour développer le vélo en France, et justement en dehors de Paris, parce que Paris a déjà tellement de moyens de transport.
Sachant qu'on a énormément d'auditeurs qui nous écrivent en nous disant c'est bien gentil, mais là vous nous parlez des milieux urbains, par exemple une personne qui dit, moi habitant en vallée, en montagne, et travaillant à 30 km, est-ce que vos invités peuvent apporter des arguments convaincants en faveur du vélo?
Alors, j'allais y venir. Il faut créer les conditions pour que les Françaises et les Français puissent avoir cette fameuse heure d'activité physique par jour. C'est une question de santé publique. Et donc, que ces personnes marchent, fassent une activité sportive ou fassent du vélo, c'est important. Après, la personne qui travaille à 30 km, elle a d'autres déplacements dans sa vie. Elle fait ses courses alimentaires, elle emmène ses enfants à l'école, etc. Et donc, tout comme il ne faut pas se focaliser sur Paris, il ne faut pas non plus se focaliser uniquement sur le domicile-travail. C'est entre un tiers et un quart des déplacements en France. On a plein d'autres déplacements. Et donc, les personnes qui travaillent à 30 km, où il n'y a pas de transport en commun sur lequel elles peuvent se rabattre en vélo, elles vont continuer à le faire en voiture ou en covoiturage ou autre. Par contre, c'est important de faire en sorte que, où qu'on habite, que ce soit en milieu rural, périurbain ou urbain, on puisse avoir, que ce soit à pied ou à vélo, cette activité physique. Et donc ça passe par des infrastructures, de stationnement, et notamment du stationnement en gare. Parce qu'aujourd'hui, plutôt que de se poser la question de fermer les fameuses petites lignes de train ou de réduire les dessertes, il faut se demander comment apporter plus de passagers pour que ces trains... En effet, c'est désolant quand on voit un train vide, même si c'est confortable quand on est seul dedans. Et donc, c'est en créant Monsieur Flonneau parlait de l'intermodalité, c'est en créant ce stationnement et en travaillant évidemment sur l'aménagement pour faire les premiers 3-4 km jusqu'à la gare, qu'on va rendre crédible le vélo, pas uniquement dans les cœurs de la vingtaine de métropoles qu'on a en France, mais pour toutes les Françaises et tous les Français. Et l'autre solution, c'est la solution que c'est une mobilité qui est bon marché, à la fois pour la collectivité, mais aussi pour l'usager. Alors après, quand c'est des distances plus importantes, on peut prendre des vélos assistance électrique, dont il ne faut pas abuser, mais qui rendent quand même beaucoup de services.
Mais ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'en fait, il faut quand même avoir, et là-dessus, tout le monde semble d'accord, une réflexion assez globale qui ne se résume pas qu'au vélo, qui soit sur les différents moyens de transport. Mais, oui. Mais alors, du coup, Isabelle Le Sens, la question que je vous pose, c'est est-ce qu'on n'en a pas, du coup, trop fait uniquement pour le vélo et pas assez pour les autres ? C'est-à-dire,
non, on n'en a vraiment pas fait pour le vélo et... Je suis obligée de parler un peu de Paris parce que c'est mon champ d'action actuel.
Hein, allez, on revient sur Paris.
Oui, je sais bien. Mais bon, je vais en sortir si possible juste après. Mais en tout cas, ce que je constate très concrètement ici, c'est que Bien sûr qu'on n'en a pas fait assez, puisqu'il y a un tas de parcours qui sont extrêmement désagréables à faire ou qui sont vécus comme des parcours d'obstacles. Donc évidemment, ça ne suffit pas. Mais en même temps, la ville de Paris a tendance à faire des aménagements sans tenir compte du contexte, sans accompagner les modifications que cela doit induire, etc. Alors je peux donner au moins deux exemples très rapidement, je vous rassure. La rue de Rivoli, effectivement, il y a des problèmes de changement d'atmosphère générale de cette rue, de fonctionnement des livraisons probablement, etc. Évidemment, mais en même temps, d'abord, je sais très bien, et tout le monde le sait, je crois quand même, que le commerce, c'est la flânerie, c'est le lèche-vitrine, ça veut dire les piétons avant tout, et c'est ça là, qui est centre dans le commerce, malgré tout, avec les livraisons. Si on achète un lit, bien entendu, c'est pas à pied qu'on le rapporte. Bon, on est bien d'accord. Mais, et l'histoire des livraisons, il se trouve que sur la rue de Rivoli, précisément, et où se trouve la boutique de notre interlocuteur en l'espèce, il y a quand même une rue parallèle à l'arrière qui s'appelle la rue de la Verrerie et la rue, je sais plus quoi, Saint quelque chose, et qui, les propriétés sont, les terrains sont des deux côtés de la rue, sont entre les deux rues. Donc, il faut accompagner les commerces l'ensemble, les habitants, etc. Quand ils verront le calme qui va arriver et comment vont mieux vivre aussi les employés des commerces, il y aura un temps d'adaptation, hein, ça c'est sûr. Mais en fait, ils vont être gagnants et ça, c'est le rôle du politique, pour le coup, d'aller au-delà et de forcer quelquefois le destin. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas accompagner. Et sur le 15e arrondissement, je l'ai vu très clairement, nous allons avoir une rue qui est à sens unique sortante, qui est une sorte d'autoroute urbaine, pas tout à fait, mais quand même, mais qui est effroyablement bruyante. D'abord, ça fait perdre beaucoup de valeur aux appartements, aux fonciers, hein, le long de ces routes, parce que c'est invivable, en réalité. Bon. Pour les piétons, c'est très désagréable, les trottoirs sont exigus, etc. Enfin, ça ne fonctionne pas très bien. On va mettre en plus de ça une piste cyclable dans l'autre sens. Dame Nud, les commerçants réagissent, mais enfin, monsieur le maire, etc. Bon. J'ai été les voir un par un, avec les plans sous le bras, et à chaque fois qu'en effet, il y avait un problème de livraison, ou que ce qu'ils vendent correspond à une clientèle qui peut venir de loin, en banlieue, etc., tout ça, on l'a regardé ensemble, ou une clientèle d'handicapés ou autre, et on a trouvé des arrangements de façon, négocié entre moi, eux et les services techniques, de façon à ce qu'on accompagne les choses sans tout casser, évidemment. Évidemment. Alors, qu'il faut prendre le temps de tout ça.
Une jeune artiste américaine à qui on annonce un bel avenir, Anna View avec Cool.
Oh, I'm always waking up too early. Heavy set in my routine. I don't like it when things fall out. I don't like it when they leave me. If I finally understand how it is to be noticed. How it is to be loved, that I can sleep through the morning. It's too good to be at home. Gotta keep my head down, 'cause if I ever see too clearly, gotta knock the light out. It's okay to be alone, 'cause I'm gonna make it happen. I'm gonna make it perfect, better than it has been. I'm trying to make it cool.
Fine, but it could be a little better. Okay, maybe I'm thinking too much, and you're just clearer. Okay, and I'm begging for your words to be something good I've never heard. I'm crying, there's something wrong.
Special to you or me, I'm trying.
make it cool. And I'm trying to make it by. Don't tell me that I'm wrong. Cause ain't nobody right.
Le débat de midi sur France Inter.
Avec un sujet de débat d'actualité, l'utilisation du deux-roues dans la cité, savoir si on lui accorde trop de place ou pas assez. Mathieu Flonneau, je posais la question tout à l'heure à Isabelle Lesang, je voulais vous faire réagir. Je rappelle que vous êtes historien spécialisé sur les questions de mobilité. Est-ce que on en fait trop pour le vélo aujourd'hui ?
Il y avait un sous-titre à votre émission qui parlait d'une tyrannie. Alors bon, je n'irai pas jusque-là. Sauf en certains endroits, et je ne les répéterai pas, mais
il faut nous le dire.
Ah bah écoutez, le centre de Paris, mais enfin j'ai écrit des choses là-dessus, bon, je les assume, okay, je peux les réécrire.
Chose, alors.
il me semble que ce n'est pas du tout pertinent pour percevoir les questions de mobilité à l'échelle nationale. Ensuite, je pense qu'on n'en fait pas assez ailleurs. Et là, effectivement, des investissements seraient légitimes. Et encore une fois, ça a été très bien dit par Monsieur Schneider sur les parcs relais, la sécurisation de ces parcs relais. Enfin, il n'y a pas de miracle. Vous allez en Allemagne, en Hollande, en Suisse, ces parcs sont sécurisés. Il n'y a pas nécessairement un surcroît de civisme particulier.
Ce que vous appelez les parcs relais, donc c'est des endroits où on peut stationner le vélo pour prendre un autre transport en commun, un autre transport.
Oui, absolument, mais où on retrouvera son vélo le soir. Et vous avez des containers sécurisés, vous avez à proximité des immeubles, et donc ce sont aussi des lois d'urbanisme et de construction qu'il s'agit de penser pour cela. Il y a toute une pédagogie, effectivement, à motiver. Donc, attention, je pense que en certains endroits, on est fait beaucoup trop parce qu'il y a une lecture idéologique du problème qui est préjudiciable, et dans d'autres endroits, là, il faut adopter une lecture plus pascalienne, plus d'esprit de finesse, où on peut vraiment, encore une fois, à moindre coût, être dans la sobriété et être dans des aménagements qui seraient évidemment pertinents pour développer ce qui est souhaitable, encore une fois, mais qu'il ne faut pas limiter au wishful thinking, c'est-à-dire qu'on peut l'encourager, mais si on ne s'en donne pas véritablement les moyens, on n'y arrivera pas.
Olivier Schneider, Mathieu Flonneau parlait des endroits différents naturellement, enfin que chaque situation était un peu singulière. Vous avez vous-même interrogé, à travers l'enquête que vous avez interrogé les usagers. Il y a eu un classement un peu des bons endroits et des mauvais endroits pour circuler à vélo.
Il s'agissait pas de classer les villes les bons et les mauvais élèves. Il s'agissait de comprendre le quotidien des cyclistes. Et donc, les cyclistes étaient invités à répondre à 26 questions et à répondre hein, de 1 à 6, est-ce que c'est facile ou difficile, etc. Et on a pris la même méthodologie qu'en Allemagne, qu'en Suisse, méthodologie européenne. Et le constat, c'est qu'il n'y a que 21 villes sur les 317 qu'on a pu classer qui ont la moyenne, et il n'y a aucune qui a A+ ou A, il n'y a que des B et C, donc des favorables ou plutôt favorables. Donc aujourd'hui, en France, le compte n'y est pas. Aujourd'hui, si vous souhaitez, d'ailleurs des anciens champions cyclistes nous disent « Je ne laisse pas mes enfants aller à l'école à vélo, je sais que ce serait bien pour eux, mais j'ai trop peur. » Enfin, ils disent « C'est trop dangereux », moi je dis qu'ils ont trop peur, parce qu'en réalité, heureusement, ce n'est pas dangereux. Pour parler de l'intermodalité, nous on propose pas moins que 200 000 places de stationnement à disséminer dans les 400 plus grandes gares de France. Parce que bon, c'est pas en mettant un parking relais de 10 places, alors on va faire plaisir à 10 cyclistes, mais ça va remplir le début de la première voiture d'un train, et ça changera pas de façon globale la mobilité, individuellement pour ces 10 personnes, mais pas en termes de système. Et donc pour changer le système, faut commencer par des systèmes de pistes cyclables continues, ensuite éduquer les gens à les utiliser dès le plus jeune âge et lutter contre le vol de manière sérieuse avec un fichier national comme pour les automobiles.
Isabelle Lesang, en début d'émission, vous nous disiez que vous étiez déjà déçue par le plan vélo, que vous n'aviez pas d'attente particulière. S'il y avait pour vous une ou deux mesures importantes qui devraient être prises pour favoriser le vélo, quelle serait-elle ?
Oui, alors j'ai le sentiment que la loi ne doit pas accompagner, mais poser des principes forts. Et le principe fort que j'attends, c'est la subsidiarité, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que d'abord on pense piéton, ensuite vélo pour agrandir le rayon d'action des piétons, et ensuite tout ce qui manque, ce qu'on ne peut pas faire à pied ou à vélo, ce qui est trop loin, etc., alors on accompagne avec des transports en commun, des transports à la demande, des taxis, des voitures particulières, des motos, enfin, etc., etc. Mais qu'on pose par principe que le mode de déplacement urbain, c'est le piéton, et ensuite le cycliste. Voilà, ça c'est la première chose. Et d'autre part, moi j'aimerais beaucoup qu'on remette à plat le code de la route, qui, faut-il le rappeler, n'a jamais été débattu à l'Assemblée nationale ni au Sénat, qui se décide dans les bureaux de la sécurité routière, grosso modo, et qui est complètement véreux. Enfin, bon, ne serait-ce que le montant des amendes qui est le même pour un camion que pour un cycliste. Enfin, c'est à titre d'exemple que je dis ça.
Et en même temps, beaucoup d'auditeurs nous disent qu'il faudrait verbaliser autant les cyclistes qu'on verbalise oui. les autres usagers de la route. Merci beaucoup, messieurs, dames. Isabelle Le Sens, donc vous êtes élue locale du 15e arrondissement. Olivier Schneider, président de la Fédération française des usagers de la bicyclette. Et puis, nous avions en duplex depuis Périgueux, Mathieu Flonneau, maître en conférence en histoire contemporaine à l'Université de Paris 1 et président de l'Association internationale des mobilités. On se retrouve demain, mardi, pour un tout autre sujet qui vous fera, j'espère, autant réagir qu'aujourd'hui. C'est pour parler de vidéosurveillance. Aujourd'hui, il y a plus de 150 000 caméras qui sont installées dans l'espace public, plus celles qui sont dans les espaces privés. Des milliers de caméras, pour quel objectif, quel résultat et surtout sous quel contrôle? Réagissez sur franceinter.fr.